Il y avait quelque chose au fond de notre poche, et nous ne savions d'où cela pouvait venir. Était-ce de l'eau? Un morceau de bois? Ciao, viva l'émission!
Salut à tous, on se retrouve dans les studios d'Agora à Grasse. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais là, on a des invités ce soir. On a des invités, mais je voudrais d'abord vous parler de ce qui s'est passé hier soir. Parce que hier soir, avec Thierry Palladino, Palach, Titus pour les Niçois, mon complice, on était à Nice. On a enregistré une émission à Nice, 20 rue de la Condamine. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Eh bien, c'est un lieu qui est menacé d'expulsion, un lieu qui abrite le journal Le Mouet, dont on a déjà parlé, la télé Chez Moi et Pilule Rouge. On était avec Jérémy, Philémon et Edwin. On a passé une super soirée et on vous proposera une superbe émission qui normalement passera le 30 juin, juste avant les vacances. Aujourd'hui, on reçoit Jacques de Seyan, on reçoit Sophie de Nice, qui vont nous parler d'une initiative d'un collectif polychrome qui est présent depuis 13 ans sur le canton de Fayence. Donc je vais demander tout de suite à Sophie, ben, c'est quoi polychrome?
Alors polychrome, c'est une association qui rayonne sur toute la région qu'on appelait anciennement PACA, voilà, et qui promeut la culture LGBTQI+, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, la culture des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, des queers et des intersexes et plus. L'association est basée à Nice. Elle compte environ 140 adhérents, des femmes, des hommes, des trans, d'orientation homo, hétéro, bi, pan, etc., etc. Et on a tout un tas d'activités qui promeut cette culture, afin de donner une image positive en fait, des LGBTQI.
D'accord. Toi, tu viens de débarquer nouvellement dans la région. Tu étais dans la région parisienne.
Oui, voilà. Je suis arrivée en juillet 2019, juste avant le confinement. Et moi, j'étais militante en fait, dans une association qui a 32 ans, qui s'appelle Cinéfable, et qui organise tous les ans un festival de cinéma lesbien et féministe pour des femmes. Et donc, comme j'avais envie de m'impliquer dans le mouvement LGBTQI...
Quand on arrive de la région parisienne, est-ce qu'on trouve qu'ici, par exemple, sur Nice, sur la région PACA, est-ce que c'est plus difficile de faire la promotion de la culture LGBT ou c'est plus facile? Je ne sais pas comment c'est perçu. Est-ce qu'on est une région qui est souvent montrée du doigt? Est-ce que ça transparaît aussi à travers la promotion de la culture LGBT?
Alors moi, j'ai eu de la chance, en fait, parce que je suis venue avec ma compagne qui avait déjà habité à Nice et qui était déjà impliquée sur une association de femmes qui s'appelle Caramel. Donc, on a déjà eu des entrées, en fait, auprès d'associations. Ça a été assez facile de rencontrer des associations. Après, je ne me rends pas vraiment compte. Bah, bien sûr, il y a beaucoup moins de monde, en fait, hein, puisque en région parisienne, ça traîne 10 millions de personnes. Sur Nice, c'est un peu plus petit, mais j'ai trouvé qu'il y avait une vie, quand même, LGBTQI, qui était assez... assez dense, sur Nice en tout cas.
Donc, Polychrome installé à Nice, c'est présent depuis 2007-2008. Et toi, Jacques, tu es sur Seyan, donc dans le Var.
Dans le Haut-Var.
Et donc, c'est quoi? C'est une antenne? C'est une succursale? Comment on appellerait le collectif? Alors, varois de Polychrome?
Ça s'est fait un peu par hasard. Moi, je n'ai jamais milité dans aucune association particulière de défense ou de promotion de la culture LGBT, et j'ai eu l'occasion chez des amis de rencontrer le président de Polychrome à l'époque, ou vice-président, je ne me souviens plus exactement ce qu'il était, c'est M. Jean Flores, qui dirige le Théâtre de Grasse maintenant, et qui m'a dit, eh ben, écoute, rejoins-nous à Polychrome, viens faire un tour à Nice, et il s'est trouvé que, après, pendant une dizaine d'années, j'avais un pied-à-terre à Nice, donc c'était assez facile, et je me suis tout de suite intéressé à la vie, et j'ai proposé à Polychrome, à ce moment-là, de monter un genre d'antenne de leur association, de cette association, dans le Haut-Var, entre guillemets, hein, je dis le Haut-Var, mais on nous situe comme ça, sur Fayence, Seyan, Montauroux, Callian, et ça c'est le premier acte que nous avons fait, ça a été de faire des projections du festival Polychrome, The Festival, et donc on a fait, depuis 4 ans maintenant, une projection par an, à Nice, une soirée avec débat, projection de films. Et ça a été dur un peu à démarrer. On a été soutenu par la mairie de Seyan, il faut le dire. Ils nous ont laissé des locaux à disposition quand il l'a fallu. Ça a été un peu dur à démarrer, mais maintenant, ça commence à bien marcher.
D'accord, toi, tu es conseiller municipal de Seillan.
Oui, depuis 20 ans, oui.
Mmh. Et c'est à la fois un engagement par rapport à la gestion communale, comme peuvent le faire beaucoup, ou dans ton engagement, il y avait l'idée que c'était de l'intérieur, on pouvait faire avancer les mentalités, notamment sur la culture LGBT.
C'est les deux.
C'est les deux.
Pas seulement sur la culture LGBT, je m'occupe d'un festival qui s'appelle Musique Cordiale, donc j'ai co-créé avec d'autres personnes, mais c'est la culture en général, mais... Il s'est trouvé qu'effectivement, il y avait l'opportunité de peut-être, entre guillemets, parler de la culture LGBT dans une région où on n'en parle pas beaucoup. Quoi. C'est très, très discret. Hein, dans le Var, il n'y avait aucune association. Il y a eu des tentatives.
Oui, il y a plus d'associations de chasseurs que de promotion
voilà,
LGBT.
Il y a plus de chasseurs et de boulistes.
Oui,
bien pour eux.
Oui.
La culture LGBT n'était pas vraiment représentée. Donc là, maintenant, on a quand même une base qui... s'étend un peu quand même, avec des gens qui viennent régulièrement, avec qui on a des contacts. Il y a une association SOS Homophobie qui a une antenne sur Fayence ou sur Montereau, je ne sais pas exactement où ils sont situés. On en parle.
D'accord.
Ça commence.
Et comment vous faites la promotion localement? Est-ce que vous avez l'opportunité d'utiliser, je ne sais pas, Var Matin, les bulletins municipaux? Comment on rentre en contact? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un contact?
Alors, il y a eu un contact plus ou moins avec Var Matin, moi je ne peux pas le nier, on a eu des contacts avec eux. C'est très très discret, hein. C'est un petit entrefilé. Non pas, c'est pas la volonté du journaliste local, hein, qui lui voudrait bien en faire paraître plus, mais après, lors de la rédaction, c'est un peu coupé et il reste quelques lignes quoi, pour promouvoir, entre autres, les journées de projection. Pour le moment, on a... Le journal municipal, ça, c'est annoncé dedans, mais c'est pareil, c'est pas développé. Quoi. C'est pour ça que cette année, maintenant, j'ai été très content de te contacter, Eric.
Oui, c'était l'opportunité
à travers le nouveau journal, notamment. À travers le nouveau journal, qui est bien lu et qui, à mon sens, est d'une grande qualité. Quoi.
Je veux dire, oui, et puis ça fait partie, je pense, du boulot du nouveau journal, de faire le lien quand... C'est d'ailleurs l'origine du nouveau journal, faire le constat qu'entre les bulletins municipaux et le journal régional, il y a de la place, notamment pour parler du local. Et la promotion de la culture LGBT, moi j'ai été enchanté de connaître l'existence de Polychrome. Comment, concrètement pour l'auditeur, comment on promeut? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des affiches un petit peu originales? Est-ce qu'il y a du collage? Est-ce que vous proposez aux gens assez régulièrement de se retrouver? Est-ce qu'il y a des débats qui sont mis en place?
Bah, en fait, on a tout un tas d'activités. On a des activités qui sont toutes les semaines, en fait. Toutes les activités, en fait, sont liées quand même tout le temps à la culture LGBT. Donc, on a une activité chorale avec une quinzaine de choristes qui se regroupent toutes les semaines pour des chants LGBT, voilà, avec des représentations dans l'année. On a un atelier théâtre où c'est pareil, en fait. C'est une fois par semaine avec 6 ou 7 acteurs et un metteur en scène. Et on fait une à deux représentations par an. Là, on vient de relancer le concours photo qui était sur le thème l'amour des genres. Voilà, c'était parce qu'en fait, avec ce confinement où il ne se passait pas grand-chose, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être le relancer en ligne. Donc, on a lancé un appel à projet sur ce thème. À ce jour, on a reçu environ 70 photos. Voilà, on va pouvoir les exposer au centre LGBT de Nice en octobre pendant notre festival de cinéma qui s'appelle The Festival et qui est en fait est tout à fait dans l'objet de l'association de promouvoir la culture LGBTQI+ à travers le cinéma. Et ce festival, en fait, il rayonne sur toute la région PACA avec des projections en octobre à Marseille, à Nice, à Toulon, à Avignon, à Seillan. Seillan, pardon. Moi, je suis nouvelle, hein, pardon. Voilà. Avec, en même temps, on essaye de faire venir les réalisateurs. On a des partenaires comme SOS Homophobie ou Transat, peut-être plein d'autres encore, mais là, je n'ai pas noté, je vais y réfléchir. Voilà, et on va essayer aussi de faire venir des écrivains. Des fois, en fait, on fait aussi un spectacle de chansons ou de théâtre. Voilà, ça, c'est vraiment une grosse activité ponctuelle qui a lieu en octobre. Sinon, on a aussi des sorties culturelles qui sont proposées de tout type, une fois par mois, en gros. On a la chance d'avoir un nouvel adhérent qui vient de se réinstaller sur Nice, qui était un prof d'histoire à la Sorbonne et qui va nous faire des conférences historiques et des visites guidées. Donc on est enchanté par cette proposition.
Conférences historiques sur le milieu LGBT, comment...
Alors pour l'instant, ces propositions, c'est plutôt sur l'histoire en général, puisqu'il était prof d'histoire à la Sorbonne, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir essayer de l'aiguiller, en fait, peut-être sur, historiquement, le mouvement LGBT. On n'a pas encore trop réfléchi. Pour l'instant, c'était plutôt sous Louis XIV, donc on ne sait pas encore trop. C'est une nouvelle proposition qu'on vient de recevoir, qu'on n'a pas encore hyper bien étudiée.
Ça serait intéressant, enfin, je pense que ça a déjà été fait, mais c'est vrai que c'est l'idée qui me vient, de voir comment... l'homosexualité notamment, mais pas que, et puis par la suite le transgenre, tous les mouvements qui sont liés au mouvement LGBT, quelle a été la vision à la fois de la population à travers les siècles et quelle a été aussi la vision du pouvoir, parce que on peut penser qu'il y a eu des mouvements où l'homosexualité a été certes réprimée, il y a encore des pays dans le monde et je pense que
beaucoup.
On en parlera où il peut y avoir la peine de mort, l'emprisonnement, et donc c'est un délit. Est-ce qu'on a une idée, par exemple, chez nous en France, comment a évolué, admettons, la loi par rapport à l'homosexualité ?
En fait, c'est tout récent. En fait, c'est Mitterrand, 81, qui a dépénalisé l'homosexualité. Donc, à ce jour, c'est plus un délit, mais avant 81, c'était quand même un délit. Et puis, il y a encore des droits à gagner actuellement. On a eu la chance d'avoir le mariage, je crois, en 2014. Après, il y a les mentalités qui doivent évoluer, parce que ce n'est pas parce qu'on a la réglementation pour se marier que c'est accepté partout, parce qu'il y a les grandes villes, il y a la campagne. Et puis, actuellement, il y a quand même, qui a été déposé au Sénat, je crois, hier, et qui, pour l'instant, a été refusé, la PMA, procréation médicalement assistée, qui a été donnée en fait pour les couples hétérosexuels, mais qui est actuellement refusée pour les couples de même sexe, pour les femmes notamment. Il y a encore des droits à gagner.
Comment le législateur, notamment le Sénat, qui est à droite et qui en règle générale n'est pas très ouvert à ces questions-là, c'est quoi leur argument pour refuser la PMA à un couple homosexuel ?
Là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Et je pense que c'est une question de conviction.
Oui, un papa et une maman.
Voilà, c'est un papa et une maman, et c'est inébranlable. Hein. C'est,
oui, oui.
Voilà, donc c'est comme ça. C'est contre tout ça qu'il faut lutter. Donc on se trouve avec une opposition religieuse, politique,
moraliste.
C'est un combat de tous les jours. À mon sens, en France, c'est inéluctable. Le projet passera.
Oui.
Bon, mais en combien de temps ?
Oui, c'est toujours pareil.
C'est toujours pareil.
Est-ce que le pouvoir sera facilitateur ou pas
c'est plutôt en bonne voie. Il y a quand même une évolution, une acceptation du mouvement LGBT quand même. On en parle de plus en plus.
Oui, j'ai tendance à penser que les générations, les jeunes générations sont plus réceptifs. Alors peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a qui ont encore des blocages et qui sont des conservateurs bien que jeunes. Je pense que, enfin, je ne sais pas si vous le ressentez, les jeunes générations, le mouvement LGBT fait partie de leur environnement. C'est quelque chose dont ils ont entendu parler, alors que de ma génération, le mouvement LGBT à 30 ans, sauf à y être confronté directement, c'est quelque chose dont on n'entendait pas parler.
Tout à fait. Pour la journée, en fait, IDAO, donc, était la lutte contre toutes les transphobies, homophobies, biphobies, lesbophobies, en fait, sur Nice. Donc, il y a une grande manifestation qui a réuni quand même énormément de personnes et j'étais surprise de voir autant de jeunes. C'était incroyable en fait. Il y avait des collégiens, il y avait des lycéens et des très jeunes adultes. Et moi, ça m'a fait plaisir en fait parce que dans le milieu LGBT où je suis, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt la 40, 50, 60aine. Et là, de voir autant de jeunes, je me suis dit c'est super en fait.
Moi, j'ai un fils qui a 24 ans, donc je rencontre beaucoup de jeunes gens du milieu artistique ou autre, parce qu'il est musicien, mais pas que. Et c'est vrai que c'est presque naturel pour eux. Parfois, ils sont surpris de voir qu'on est obligé de se battre parce que pour beaucoup d'entre eux, tu es homosexuel, tu es hétérosexuel. Ça ne regarde pas, quoi. Je veux dire, tu es accepté comme tu es. Pas dans tous les milieux, c'est évident, mais ça progresse quand même. Ça progresse et il y a quand même quelque chose de très positif là-dedans.
On va faire une première pause musicale. On va laisser les auditeurs découvrir votre choix musical. Et c'est Nancy qui est aux manettes qui envoie ça. Ciao, viva. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard.
wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you.
Retrouve Jacques et Sophie. On vient d'écouter cet extrait musical. Alors moi, je voudrais demander à Sophie, puisque c'est toi qui as fait le choix, de nous dire deux mots sur ce qu'on vient d'entendre.
Alors j'ai voulu choisir Over the Rainbow, en fait, parce que c'est un chant qui est un petit peu, alors je ne sais pas si on pourrait dire l'hymne, mais en tout cas qui est repris par plein d'associations LGBT. Un, parce que déjà, c'est le drapeau. Et que ça date de 1946. Voilà. Donc, moi, j'ai fait partie de plusieurs chorales LGBT. Et je sais qu'à chaque fois, en fait, il y a souvent ce chant qui est toujours, là, qui est fédérateur.
Et qu'est-ce que disent les paroles ?
Bah, ça dit qu'en fait, c'est un peu I have a dream. Voilà, sur au-delà de l'arc-en-ciel, en fait, tout est permis, en fait. Ce drapeau-là, pour moi, comment je l'interprète, en fait. C'est que ce drapeau LGBT, en fait, qui est le drapeau aussi de la paix, voilà, il représente la diversité sexuelle et de genre. Il a été créé en 78 et pour moi, ce chant, en fait, ça reprend tout ça. La joie, le bonheur, un peu la fierté, en fait, d'avoir une sexualité diverse et variée. Et oui, la liberté, comme dit Jacques.
Oui, tu peux.
C'est
intéressant parce que j'ai eu une discussion là, le 5 et 6 juin lors des rencontres intergalactiques et transnationales de la presse libre, indépendante et pas pareil. J'ai eu une discussion avec. Alors, je ne sais pas si on doit dire une dame ou une jeune fille, mais bon, j'en reste à jeune fille parce qu'elle aurait pu être même plus jeune que ma fille. Sur le drapeau, et je disais que c'est vrai que le drapeau arc-en-ciel est assimilé au mouvement LGBT, mais aussi, moi je l'ai vu fleurir, alors c'est aussi en lien dans le mouvement altermondialiste de la fin des années 90, et elle m'a dit, oui, mais on en voit même sur la place Saint-Pierre quand le pape s'adresse à ses fidèles. Je voulais savoir l'origine de ce drapeau, d'où il sortait en fait.
Alors il a été créé en 1978, et il est présent dans beaucoup de cultures. C'est aussi le drapeau de la paix. Je ne sais pas trop en dire plus, en fait.
Avant qu'on écoute la musique, là, on était en train de parler, tu parlais notamment de ton fils et de la façon dont les nouvelles générations sont au courant de l'existence du mouvement LGBT. Il y a une forme de tolérance. Est-ce que c'est en lien, notamment, avec cette période du sida, qui a à la fois fait prendre conscience de l'existence d'un mouvement homosexuel ? Qui a mis en avant la nécessité, notamment pour la communauté gay, de s'organiser, de se fédérer, de se défendre.
Deux choses. La première des choses que je voulais dire par rapport à ce que disait Sophie tout à l'heure, qu'il y avait parfois sur la place Saint-Pierre, on peut être catholique et homosexuel. Hein, c'est pas un problème.
C'est pas un problème. Enfin, voilà. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas.
C'est entre guillemets. Ouais. Après, oui, je pense que le sida a amené malheureusement
une prise de conscience.
Pas seulement une prise de conscience, mais un accès à la visibilité des mouvements, malheureusement souvent dénigrés à cause de ça. On a associé le sida à toutes sortes de maladies homosexuelles uniquement. Moi, j'ai tout entendu quand j'étais à la fin des années 60. Pendant un moment, même en 1980, j'habitais un peu à San Francisco. J'ai entendu des choses, mais c'est l'horreur, quoi. Ce qu'on a pu entendre par rapport aux homosexuels était responsable de tout, quoi.
Oui,
je veux
oui.
dire, c'était
eux qui avaient créé le sida. C'est effrayant, quoi. Alors, effectivement, ça a amené, on a malheureusement parlé un petit peu plus du mouvement homosexuel, et ça, je pense, contribué au fait que les homosexuels s'organisent un petit peu plus en association pour lutter, justement, contre tous ces préjugés, contre toute cette stupidité agressive, quoi, je veux dire, qui était à l'encontre des mouvements, à l'encontre du fait d'être homosexuel ou trans ou bi. Il y a eu quand même une grosse agressivité.
Je pense aussi que dans les générations suivantes, ça a aussi modifié la sexualité, le rapport à la sexualité de bon nombre de couples hétéros, de par notamment le risque de la maladie, donc une interrogation sur la sexualité, sur ce que certains appellent une dérive du patriarcat et que hier soir, Jérémy appelait la culture du viol, mais qui est quelque chose en rapport avec l'idée de domination. Ça me fait penser à ce film Pride. Je sais pas, moi je l'avais trouvé très intéressant. Je sais pas si dans vos mouvements c'est aussi articulé comme ça. C'était le lien qui est fait entre les différentes formes de domination. Et dans le film Pride, je sais pas si vous l'avez vu, ça se passe au moment de la période thatchérienne. C'est en Angleterre, c'est au moment où les premiers morts du sida, et ils corrèlent leur lutte à la lutte des mineurs gallois, qui sont eux aussi en guerre contre Margaret Thatcher, et on imagine bien, et ça se voit dans le film, là, l'écart qu'il y a de ces deux communautés, d'un côté LGBT, de l'autre côté des mineurs gallois, pour arriver à quelque chose d'assez assez magnifique, à faire des manifestations ensemble. Est-ce que dans votre démarche... Alors, il y a la promotion de la culture LGBT qui en soi est une démarche politique. Est-ce qu'il y a aussi un contenu plus politique de dénonciation de la domination, du capitalisme ou
Alors, Polychrome n'est pas un mouvement politique. Voilà, qui est composé de membres qui peuvent avoir des idées politiques différentes. On n'a pas des revendications précises. En tout cas, ce n'est pas l'objet de l'association, en fait. Nous, c'est la promotion de la culture LGBTQI et de faire une image positive de cette culture. Voilà. Pour ce qui concerne les droits, on peut parfois manifester, en fait, avec justement la journée contre la transphobie, bien sûr la Gay Pride ou ce qu'ils appellent à Nice la Pink Parade. Voilà, on va se montrer pour promouvoir cette culture. Après, on n'est pas un mouvement politique, on laisse ça aux autres. Et dans notre association, on peut avoir divergences d'opinion, en fait.
Donc, on peut imaginer que dans vos activités, est-ce qu'il y a une démarche spécifique par rapport à la jeunesse? Est-ce que vous avez des fois l'opportunité d'expliquer votre démarche auprès, alors, école, lycée, collège, université? Est-ce qu'il y a des passerelles ou est-ce que c'est très compliqué?
Non, il y a des passerelles, justement, parce que cette année, justement, on a réfléchi, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle le Prix littéraire jeunesse, voilà, et qui a été approuvé, signé et soutenu par le rectorat de Nice. L'idée, en fait, c'est d'intervenir dans les collèges avec un choix de 12 romans littérature jeunesse pour les 4e et 3e. Et donc, à la rentrée prochaine, on va s'associer avec des enseignants qui vont justement lancer ce prix auprès de leurs élèves. Donc l'idée, ça sera que chaque élève lise ses 12 romans, en discute, en débatte et en choisisse un. Et donc c'est l'idée de faire réfléchir les enfants sur justement toutes ces thématiques LGBTQI. On est en direct avec les enfants, les collégiens.
D'accord, ça c'est en test dans quelques établissements?
Oui, ça sera sur plusieurs établissements à la rentrée. On est en train de voir avec qui, en fait, qui sera partenaire avec nous. Mais on a déjà, d'ores et déjà, le soutien du rectorat de Nice avec lesquels on a signé une convention, je crois. Enfin, je ne sais pas le terme juridique. Enfin, on a signé un contrat quelconque. Ouais.
Je ne dirige pas cette partie-là.
Il y a une convention, en fait, qui a été signée. Voilà. Parce que on a, parmi nos adhérents, en fait, on a des enseignants, dont une enseignante qui a porté ce projet, Valérie Vinolo, qui est prof de français dans des collèges sur Nice.
Ah oui, je voulais parler de votre festival.
Voilà.
Je voulais parler de votre festival qui aura lieu en octobre.
Alors, commence début octobre. Les dates exactes, on a été obligé de changer là, parce que...
De toute façon, on reprécisera
oui.
ça.
Hein, comme la
ça,
seule date que je connais vraiment, c'est celle du 16 octobre à Seillan, le samedi 16 octobre à Seillan. Ça, c'est acté, ça c'est sûr. À Nice... C'est...
Alors nous, on aura à Nice une ouverture en fait, du festival le 7 octobre. Après, s'en suivra en fait, des projections à Toulon La semaine d'après, à Marseille. On vous redonnera les dates précises. Ensuite, on sera à Nice fin octobre.
Et à Avignon, la date reste à définir parce que je suis en contact avec la personne qui s'occupe de la salle de projection. Ce sera de toute façon dans le courant du mois d'octobre.
Et on finira avec ce qu'on fait tous les ans, en fait, pour la journée du souvenir trans, le Thé d'Or. Le 20 novembre, on devrait faire une projection au moins sur Nice.
Alors, on paraît un peu désorganisé parce que nos dates ne sont pas tout à fait finies, oui, mais vous comprenez, les circonstances ont été un peu compliquées.
Oui, on vient de jeter le masque ce matin.
Voilà. les organisateurs et des salles étaient très hésitants pour bloquer les dates, ne sachant pas quelle jauge, quelle... Donc là, maintenant, ça commence à se stabiliser un peu et on pense qu'on pourra vraiment projeter dans les conditions normales. Donc, les dates vont être bloquées très rapidement.
Oui, vas-y.
Excuse-moi. Ce que je voulais dire par rapport à la prise de position de cette association, la prise de position est aussi par rapport... La sélection est collective chez nous. Hein, donc, on est tout un groupe à visionner des films et chacun donne son avis. Et la programmation n'est pas prise par une personne. Quoi. Je veux dire, on est cinq ou six à travailler.
C'est du collectif.
C'est vraiment une commission au sein de l'association qui sélectionne les films. Donc, bien sûr qu'il y a des films qui sont politiques.
Hein,
c'est évident, mais ça, c'est notre manière de participer justement à une prise de position politique. L'année dernière, on a failli diffuser un film, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire, qui s'appelait Le Prince, qui était un film argentin, sur l'homosexualité dans l'univers carcéral argentin. Waouh ! Ça, c'est une prise de position politique. Ouais, je veux dire, c'est très dur, c'est très difficile. Je ne sais pas si on pourra le reprogrammer cette année, parce qu'il a dû sortir entre-temps, donc ça va être compliqué.
Oui, c'est dommage. Parce que automatiquement, le milieu cinématographique, le milieu des salles culturelles a été tellement bouleversé cette année. Enfin, on espère que toutes les salles vont s'en ressortir et vont se re-remplir assez vite. Donc, il y a ce festival, donc c'est Polychrome qui organise ce festival sur des temps différents, dans des lieux différents. Donc, basé beaucoup sur la projection, la présence de réalisateurs, oui. Du débat. Est-ce qu'il y a un thème particulier au festival d'une année sur l'autre ou globalement, c'est l'ensemble des problématiques LGBT?
Il n'y a pas vraiment de thème, en fait, parce que, déjà, ça dépend de la production cinématographique. Ouais. On essaye, en fait, de projeter des films récents. On peut éventuellement revenir sur un ou deux films cultes. Donc, c'est selon la production. Ça peut être aussi, effectivement, selon l'actualité, parce qu'effectivement, si on parle de la PMA et que ça revient en débat et qu'en plus, ça risque d'être rejeté par le Sénat, il serait de bon ton d'avoir au moins un court-métrage ou un film pour pouvoir évoquer cette problématique. Après, il y a des problématiques qui reviennent tout le temps, en fait. Hein. C'est la discrimination, le coming out, les enfants... la reconnaissance des droits par l'autre conjoint, par exemple en cas de décès, les 47 pays où l'homosexualité est un crime ou un délit. Tous ces
47
sujets...
pays sur... Ça fait quoi? Ça fait un tiers à peu près des pays dans le monde? 47? Non, peut-être un quart. Il y a un quart des pays où l'homosexualité est encore un crime, un délit.
Ah oui.
Et dans certains,
peine de mort. Je pense qu'on doit même au-delà du quart, certainement, hein, parce que...
Moi, j'ai gardé en tête 47. Après, ça a pu, évoluer, mais c'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, en fait, en France, ou qu'on puisse quand même se marier. Ça n'a pas été non plus facile à obtenir. Ça a été une promesse de campagne qui a été donnée, voilà. Et il y a quand même eu énormément de contre-manifestations. Et là, on voit encore qu'aujourd'hui, c'est quand même un vrai problème avec cette histoire de PMA qui risque d'être refusée aux femmes de même sexe.
Oui, parce qu'on est quand même dans la communauté européenne et sur les 27 pays, en Hongrie, en Pologne et peut-être dans d'autres pays, la promotion de LGBT est considérée comme un délit. Là, il y a une décision qui a été prise par Orban il y a deux ou trois jours.
En Hongrie, y est maintenant, on a interdiction en fait, de promouvoir la culture LGBT. C'est un délit à ce jour.
Oui, et c'est l'Europe.
Ça vient tout juste de sortir. Donc ça veut dire qu'on peut revenir actuellement sur des droits qu'on pensait acquis, et je pense que rien n'est jamais acquis en fait. C'est pour ça qu'on doit toujours être vigilant.
Même en France, il faut être très prudent parce que tout le monde n'a pas le même programme.
Là, on est en période d'élection,
c'est clair difficile. Et il faut être très, très vigilant, ne pas hésiter à prendre la parole et à défendre la culture et à travers la culture, les droits, bien sûr, c'est évident. Donc, c'est en ça que moi, je pense que toute action qui vise à toucher du public est une action politique, de toute façon. C'est la définition même, si je ne me trompe pas, non de...
Oui, 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 la politique, l'organisation de la cité, ce qu'on y fait ensemble, comment on partage. On va s'écouter un deuxième morceau de musique et puis on se retrouve pour finir après tranquillou. Ciao, vive, portez-vous bien.
Agora Côte d'Azur.
Deuxième choix musical, donc Mylène Farmer, connue pour son engagement, elle a été un déclic en fin de compte. Elle a interrogé, beaucoup d'hétéros se sont posé la question.
Oui.
Et donc du coup, elle a peut-être permis à des jeunes de pouvoir affronter les,
Moi, j'ai choisi Mylène Farmer, en fait, sans contrefaçon, pour deux raisons, en fait. D'abord, par rapport à ma propre histoire, parce que quand elle a sorti cette chanson, en fait, c'était en 1987, j'avais 18 ans, voilà. Et moi, je commençais, en fait, à sentir que j'avais des désirs pour des femmes. À cette époque, il n'y avait pas énormément de modèles, même en France, voilà. Et cette chanson, en fait, est quand même un symbole très important pour les femmes et pour les femmes lesbiennes. Aussi, en fait, pour les féministes, en fait, où très longtemps, et maintenant encore dans certains pays, en fait, des femmes sont obligées de s'habiller en hommes pour pouvoir œuvrer, en fait, pour un métier, par exemple, comme paléontologue ou pour comme docteur. Et cette chanson, bah, c'est un peu les deux, en fait. Il y a à la fois des femmes qui sont obligées de s'habiller en hommes pour pouvoir faire des métiers qui leur sont interdits. Et aussi parce que moi, quand j'ai eu 18 ans et qu'il n'y avait pas beaucoup de modèles lesbiens, en tout cas dans mon univers, dans ma culture assez populaire, je me posais la question, en fait, mais si je suis attirée par les femmes, je n'avais pas conscience du mot lesbienne, qu'une femme pouvait aimer une femme. Peut-être, en fait, je suis un garçon, en fait. Ça me posait question, parce que si la normalité, c'est un homme avec une femme, et que moi, étant femme, je suis attirée par des femmes, bah, peut-être que si j'étais un garçon, en fait, voilà, je pourrais tout simplement aller avec des femmes. Donc, c'est pour ça que cette chanson, elle est importante, en fait, à la fois pour les féministes et à la fois pour les femmes qui aiment les femmes, et puis pour les autres, pour les faire réfléchir.
Eh oui, heureusement, bien sûr. Tu évoquais le féminisme. Quels sont les liens, les points de rencontre et éventuellement les points d'achoppement avec le mouvement féministe et le mouvement LGBT?
Les points d'achoppement, c'est que, en fait, dans les années... je ne suis pas hyper forte en culture historique.
C'est pas grave, on peut dire
des
bêtises, on
est à la
radio.
Mais dans les années... fin des années 60, enfin, les années 70, en fait, il y a eu, en fait, scission entre eux dans le milieu gay et lesbien, parce que en fait les femmes se sont rendues compte que c'était difficile, en fait, de s'associer aux gays, parce que les gays sont des hommes et les hommes sont ceux qui ont le pouvoir et sont ceux qui discriminent les femmes. Et moi, c'est pour ça que j'ai milité longtemps, en fait, dans une association lesbienne, parce que on est femme et on est doublement discriminée, en fait, parce que femme et parce que lesbienne. Et du coup, il y a eu cette scission-là, parce qu'en fait, les intérêts étaient assez divergents. Sur la discrimination, il y a des points communs, mais le fait que des hommes qui ont la plupart du temps le pouvoir politique, le pouvoir commercial, le pouvoir financier, bah, du coup, c'est un peu difficile avec les femmes qui, elles-mêmes, subissent ce pouvoir. Oui, donc, il y a pu avoir scission, en fait, à cause de ça, en fait.
C'était la double peine.
Voilà, en gros, en quelque sorte.
Moi, j'aurais plutôt lutté contre le fait que l'on m'oblige à me mettre dans une case. Voilà, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. C'est pour ça que je militais pas dans aucune organisation, pardon, auparavant. Mais là, j'ai trouvé à Polychrome vraiment quelque chose qui est soft, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de
souple et accueillant.
Voilà, souple et accueillant, et c'est pour ça que je suis rentré dedans. Mais sinon, jusqu'à présent, j'arrivais pas parce que il fallait absolument être catégorisé sur quelque chose. Et ça, moi, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir si je suis homosexuel, hétérosexuel ou autre. Je suis sexuel, quoi. C'est tout. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a, par rapport aux brimades que subissent les homosexuels et les lesbiennes, il est nécessaire de réagir et de se regrouper pour pouvoir effectivement se faire entendre. Mais au départ, ce n'était pas ma démarche.
On a parlé... Oui, vas-y, vas-y.
Je voulais rajouter quelque chose sur Polychrome, justement, parce que, bon, moi, j'aurais préféré être dans un mouvement de filles. Mais j'ai été surprise et en bien, en fait, parce que quand je suis arrivée à Polychrome, en fait, j'ai été très bien accueillie. Et lors de la programmation, du choix de notre programmation du premier festival auquel j'ai participé, en fait, il y a une parité, en fait, entre les films gays et les films lesbiens. On a programmé autant de films gays que de films lesbiens, ce qui est assez rare. Parce que quand on regarde toutes les programmations de tous les festivals de cinéma LGBTQI mixte français, c'est rarement le cas. Si on compte, en fait, le nombre de films lesbiens par rapport à chaque fois au nombre de films gays, c'est toujours un film et c'est jamais à parité égale. Et là, j'ai trouvé que c'était super, en fait, parce qu'à Polychrome, bah, en fait, ça permet cette égalité et cette parité. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un président homme et moi, je suis la vice-présidente femmes. Et ça aussi, c'est important, parce que si on regarde toutes les associations LGBT, souvent, bah, les présidents, ce sont des garçons.
Ah ouais, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait... Je pensais justement que dans le mouvement LGBT, en lien avec le féminisme, il y aurait une place plus importante pour les femmes.
Alors, je n'ai pas fait de statistiques par rapport aux associations qui ne sont pas dans ces droits-là.
Nous le dirons au répondeur 07 81 83 07 06.
Et de toute façon, la contribution polychrome à l'affirmation de la partie féminine, c'est super, quoi. Je veux dire, c'est bien, et quoi qu'on en pense, il n'y a effectivement aucune décision n'est prise unilatéralement, quoi. Je veux dire, il y a toujours une discussion. On passe d'ailleurs des heures à discuter, on s'est vus Zoom pendant des mois et des mois, et on en a encore une ce soir de réunion d'ailleurs. Chacun peut apporter sa contribution et sa conviction.
La démocratie, c'est difficile.
Oui, c'est dur. C'est très difficile.
C'est sur le tapis, sans arrêt,
D'humilité, d'abnégation.
On n'a pas raison et c'est une bonne chose. Moi, je voulais revenir à la PMA. Alors, pas pour rentrer là, parce qu'on n'aura pas le temps, mais on aura l'opportunité peut-être de le faire à la rentrée, mais par rapport à cette situation où la loi va passer devant le Sénat, qu'a priori le Sénat il va la retoquer ou du moins réduire l'impact de ce que ça aurait pu être. Est-ce qu'il y a des manifestations prévues? Est-ce qu'il y a des envois de mails? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des brochures? Est-ce qu'il y a un site où les gens peuvent s'informer sur ce que la loi propose et les risques qu'elle encourt à son passage au Sénat?
Alors, pour ce qui est de Polychrome, non, puisqu'on n'est pas un mouvement politique. Après, ce qui est des autres associations, je pense que oui, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc, j'imagine que sur SOS Homophobie, c'est sûrement relégué. Voilà, sur des mouvements féministes comme Osons le féminisme, par exemple, c'est sûrement relégué. Après, je ne suis pas une grande spécialiste. Donc,
Il n'y a pas un site web... Une chaîne YouTube LGBT qui fasse référence comme ça spontanément?
Là, on est pris au piège.
Je dirais, parce que là, j'étais un peu pris au dépourvu dans ma réponse. Il y a Jeanne Magazine quand même, qui est un magazine lesbien. Donc, je pense que si on tape Jeanne Magazine, en fait, on va pouvoir s'abonner et on va pouvoir avoir des articles dessus. Il y a une newsletter du média Comitid, K-O-M-I-T-I-D, sur lequel on peut s'abonner, en fait, et c'est quotidien, en fait. Il y a des articles quotidiens sur toute la vie LGBTQI dans le monde, forcément sur la PMA, parce que c'est d'actualité. Et après, pour le reste, je ne suis pas une grande spécialiste, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a plein d'autres choses, mais je ne sais pas lesquelles.
Je pense qu'on peut se connecter sur le site du Centre LGBT de Nice, où il doit y avoir déjà beaucoup d'informations là-dessus, parce qu'ils font un boulot fabuleux. Vraiment, leur tirer notre chapeau, là, parce que vraiment, ils font du bon travail. Et des associations comme AIDS, tout ça, doivent pouvoir donner beaucoup d'informations également. Ça, c'est facilement joignable, quoi. On peut les trouver sur Internet.
Je pense qu'il y a toutes les newsletters en fait, des centres LGBT de France qui doivent reléguer l'information, puisqu'ils relèguent toujours l'actualité politique.
Oui, donc toute personne qui a un doudou intelligent, c'est-à-dire un téléphone, est en capacité de pouvoir se renseigner, d'aller un petit peu plus loin. On va écouter un dernier morceau, et puis on va se retrouver pour voir ce dont on n'a pas parlé éventuellement, et puis compléter pour des infos. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur. Ciao, viva, portez-vous bien.
Agora Côte d'Azur.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire. Un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers. Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sincère.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme.
Il n'y a pas d'amour sans sûr.
Ce n'est absolument pas pour des homosexuels.
Il n'y a que d'amour sincère.
Plus en plus de gars à télé, donc ils gestent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait comme une maladie qui se propage.
Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après? Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
On retrouve Jacques et Sophie et l'association Polychrome. Alors, comme on l'a fait pour les deux extraits musicaux précédents, Sophie, tu vas nous expliquer ce choix et ce que ça dit.
Alors, j'ai choisi cette musique parce qu'elle est vraiment d'actualité, en fait. C'est donc la chanteuse Oshi, ou Mathilde Gerner, qui a 25 ans, en fait, qui a sorti ce titre pendant le confinement, qui dit qu'en fait, elle aime les femmes. Et en fait, ça a fait tout un buzz. Pourquoi? Parce qu'elle a été critiquée, en fait, par un journaliste dont j'ai oublié le nom. Et puis, de toute façon, je ne voudrais pas le citer.
Oui, on ne va pas lui faire de pub.
Voilà, qui a dit qu'il adorait l'écouter à la radio, que ses chansons, c'était super, mais que quand il l'avait vue, il avait été archi déçu. Voilà, parce qu'elle ne correspond pas forcément aux normes de la beauté classique des magazines, les grandes, maigres, voilà, qui sont à moitié anorexiques. Et que en fait, son look était en gros lamentable, voilà, ah et ouais. Que en gros, ça, il préférait juste l'écouter, mais sûrement pas la voir. Donc, ça remarque en fait, surtout au mouvement, par rapport au mouvement MeToo, voilà, ça a explosé et du coup, ça l'a
ça
rendu
lui a fait
encore.
Une super promotion.
Finalement, ça lui a fait une super pub et
si
du
c'est
coup.
C'est un pote à elle, il l'a fait exprès.
je suis pas sûre. Mais bon,
beau.
C'est vrai que du coup, ça remet quand même. Les choses en place, parce que de nos jours, on est en 2021 où on a la liberté du corps, et malheureusement, pour les femmes encore, il faut encore correspondre à certaines normes de beauté. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson, parce que ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire.
C'est clair qu'il y a encore du boulot. Donc l'association s'appelle Polychrome. Si, comment elle est financée, cette association Polychrome, globalement, sans trop rentrer dans le détail?
On a des subventions de la ville de Nice, de la région, de la ville de Marseille. Et, si
et de l'ADILCRA.
D'accord.
Donc on a un budget relativement important. Voilà, ouais. On est vraiment très très bien soutenu. Et moi qui viens de Paris, en fait, j'étais très très surprise par le montant des subventions, puisqu'en gros, on a un budget rien que de subventions d'environ 23 000 euros. Ce ouais. qui est quand même énorme. Et c'est ce qui permet justement de faire toutes nos activités, notamment The Festival, dans des lieux où ça ne rapporte pas forcément énormément d'argent. Mais finalement, grâce aux institutions, on est soutenu pour pouvoir promouvoir cette culture LGBT.
Alors, aux institutions et aussi aux gérants de salles de cinéma. Hein, parce que, par exemple, à Toulon, c'est une salle privée, c'est un distributeur privé. À Nice, c'est plutôt généralement les salles de cinéma du Mercury, du conseil départemental, je ne sais plus comment dire. À Marseille, c'est des salles privées, à Avignon, c'est privé. Donc, Pour nous, on les remercie, hein, parce qu'ils prennent sur eux, c'est pas toujours un énorme public. Hein,
oui, oui, ils font pas ça pour gagner de l'argent.
C'est pas clair. Vraiment rentable pour eux, mais ils le gagnent quand même. Donc il faut les citer, quoi. C'est, je crois que c'est à Marseille. Je me souviens.
C'est le cinéma des variétés et le César. On a deux cinémas. Ouais. Voilà, à Nice, on a le Mercury. Par le passé, il y a eu le Rialto. Des fois, on fait des partenariats avec le Pâté Masséna. Voilà. Et après,
à
comme.
Toulon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je n'ai pas le nom sous la
tête. Donc, on ne va rien dire.
Voilà, on ne va rien dire, mais on est très bien soutenus, vraiment. De ce côté-là, on peut pas se plaindre. Vraiment, on a accès aux salles, à des bonnes salles, à des bonnes conditions. C'est annoncé, c'est vraiment.
Il y a une volonté de participer en mettant à disposition, donnant les moyens de remplir les salles. Quoi.
Je vois l'année dernière, par exemple, Polychrome a été partenaire d'une projection d'un été 85, le film d'Ozon, carrément dans une salle privée. Quoi. Je veux dire, c'était au Pâté Cinéma, hein, au Pâté Masséna. Donc, ils ont fait un partenariat avec un accès à tarif réduit pour nos adhérents. C'était archi-comble, hein, le cinéma était plein. Donc, c'est vraiment, c'est porteur. Le cinéma est un moyen de diffusion qui marche.
Oui, oui. Et maintenant la radio, puisque on essaiera d'aller plus loin ensemble dès la rentrée, essayer de proposer une émission régulière dans le cadre des émissions Ciao Vive.
On va pas faire de flagornerie, mais des radios comme la vôtre, c'est indispensable et c'est super. Vous faites un boulot génial. Hein.
Oui, et puis vous faites un boulot génial et de pouvoir en faire profiter les auditeurs et puis à notre façon apporter un petit coup de main, c'est bien volontiers. Donc, les adhérents aussi, il y a une adhésion, elle a un prix, c'est prix libre.
Ah oui, il y a une adhésion qui est très faible, qui, je crois, de 25 euros par an. Oui.
On a ramené à 20 euros cette année à cause de la pandémie. On a rabaissé le prix.
Oui.
Voilà, donc il y a des tarifs en salle qui sont à tarifs réduits pour les adhérents. Et puis, on a dans les activités théâtre, chorale, des tout petits prix, en fait. Pourquoi ?
Pour payer parce les intervenants ?
Non, les intervenants. En fait, la chef de chœur, on a de la chance, en fait, elle fait ça bénévolement. C'est une prof, elle s'appelle Nathalie Leonardi. C'est une prof de musique de collège qui donne de son temps pour toutes les semaines venir à la chorale, préparer. Et pour le théâtre, on a un intervenant qui était l'ancien président, qui est parti suite à un concours en province, je ne sais plus où. C'est Bernard qui a repris l'activité et c'est pareil, c'est du bénévolat en fait.
Personne n'est salarié dans notre association.
Voilà, on va rester là-dessus. C'est une association de bénévoles, polychrome.fr. C'est dans toute la région PACA. Et puis vous en entendrez parler. On se retrouvera à la rentrée de septembre avec Jacques, Sophie et certainement d'autres. Ciao Vive, portez-vous bien et passez un bel été.
Merci beaucoup et bon été à vous tous et toutes.